L'énume, l'update, l'essentiel de la tech. Sur place ou à emporter.
La technologie avance, on vous aide à la rattraper. C'est Julien, bienvenue dans l'update saison 2. Cette semaine, le youtubeur Fred sera au micro d'Enume. On parlera photo vidéo, de Google qui vient filer un coup de main à Apple côté IA et de ce que 2026 nous réserve. Technologie. Cette semaine dans l'update, je suis avec un pote, un ami, un confrère. Je suis avec Fred. Comment ça va ?
Je vais rougir. Très bien. Et toi, Julien ?
Mais ça fait super plaisir. Déjà, bonne année.
Toi aussi, hein, franchement. 2026, on n'a pas de voiture volante. Pourquoi ?
Non, toujours pas.
Il n'a pas eu au CES non plus, d'ailleurs.
Non, on va en parler aussi tout à l'heure. Ouais. Si tu devais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas en quelques secondes, Fred, c'est qui ? C'est quoi ?
C'est qui ? C'est quoi ? Je m'appelle Fred. Voilà, j'ai commencé dans la tech en 2007 comme blogueur. À l'époque, c'était à la mode. Mmh. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la vidéo. Et maintenant, je suis présent sur YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat aussi. Mais je comprends pas comment ça marche.
Voilà. Principalement tech avec des produits
tech,
en particulier.
Tech. Un peu photo aussi de plus en plus parce que c'est un secteur que j'aime bien. Ça me passionne en fait. Je parle de ce qui me passionne. Voilà. Et j'essaie de le faire avec de belles images.
Et est-ce que tu te souviens de la première vidéo que t'as faite et dont t'étais vraiment fier?
En vrai, là, je pense que la vidéo...
Où tu t'es dit, je me suis trouvé, c'est vraiment ce contenu-là
que je veux. C'était l'année dernière, tu vois, donc ça fait pas si longtemps que ça. J'ai fait une vidéo sur le Oppo Find X9 Pro et je l'ai faite différemment de d'habitude. Voilà, j'ai voulu un peu plus de storytelling, j'ai insisté un peu plus sur les images. Je voulais raconter une histoire autour du produit et là, je me suis dit que ça s'approchait de ce que j'avais envie de faire, en fait. Donc après, il y a plein de trucs qui vont pas parce que je suis très, très perfectionniste. Donc il y a plein de choses que j'aime pas, que je trouve nul, que je trouve, voilà. Mais ça se rapproche vraiment de ce que j'ai envie de faire et je pense que s'il y a vraiment une vidéo dont je suis fier aujourd'hui, c'est celle-là, quoi.
Le storytelling, raconter une histoire, c'est un peu ce qui revient à chaque fois quand je discute avec les créateurs de contenu. Ça passe par quoi ?
Déjà, ça passe par l'écriture. Ça, je pense que c'est vraiment l'étape la plus ardue et en même temps qui est fondamentale. Moi, j'écris personnellement toutes mes vidéos de A à Z. Je suis très, très peu dans l'improvisation parce que généralement, quand j'improvise, soit c'est pas drôle, soit
tu peux finir en taule.
Soit je peux finir en taule. Donc, je préfère éviter quand même, voilà. Mais donc, non, c'est beaucoup d'écriture déjà parce que bah, raconter une histoire, c'est bien, mais comment tu le fais, en fait ? Comment tu choisis l'accroche ? Comment tu choisis l'angle ? Alors, des fois, t'es là, tu réfléchis à un truc, tu pars sur un angle qui te semble bon et puis en fait tu réalises au bout de 2 jours de boulot que c'est de la merde, donc tu recommences. Donc je pense que c'est vraiment le point de départ, c'est l'écriture. Après il y a aussi la réalisation. On fait des métiers qui sont assez complexes en fin de compte et qui se limitent pas tu vois à faire du dropshipping comme font beaucoup d'influx, et c'est pour ça que je fais vraiment la démarcation.
Vous mettez tous un peu dans le même panier, ce qui est quand même dommage.
Bah c'est dommage, hein. C'est bon, je sais que tout le monde le fait, mais ouais, y a les influenceurs et il y a les créateurs, et c'est vraiment pas du tout la même optique, pas du tout le même angle, pas du tout la même vision. Quand t'es créateur, t'as envie de partager des choses à ta façon. Quand t'es influenceur, bon, t'as envie de, je sais pas de quoi ils ont envie, mais
faire de la maille en général.
Voilà, l'idée c'est d'essayer d'avoir aussi, donc c'est un métier qui est complexe. Donc il y a l'écriture, il y a la réalisation. Ça c'est très très important. Moi je fais le montage de toutes mes vidéos. Je fais tout de A à Z en fait, et ça veut dire que mon image, j'essaye quand même de lui donner un côté un peu, un look un peu unique. Et comme je suis très con, j'aime bien me lancer des défis. Et là typiquement, tu vois, je me suis dit tiens, 2025 est terminé. Nouvelle année qui commence, pourquoi ne pas tout changer ? Mais quand je dis tout changer, c'est tout changer. Le mec achète une nouvelle caméra, qui filme dans un codec qu'il ne connaît pas,
bien sûr,
qu'il n'a jamais utilisé, et en plus, il monte sur un nouveau logiciel qu'il ne connaît pas non plus. Et voilà, mais c'est
démarrer l'année avec des handicaps comme ça, c'est plutôt cool.
En fait, ça permet de se réinventer aussi, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important dans notre métier.
Ça t'évite les automatismes.
Bah, c'est ça en fait. Et il y a un moment donné où tu finis par en avoir. Tu vois là, je montais toutes mes vidéos sur Final Cut Pro, et j'avais mes effets, j'avais mon rythme, j'avais mon truc, et en fait, j'en suis venu à regarder mes vidéos en me disant mais en fait, c'est toutes les mêmes quasiment, quoi, les mêmes structures, le même ton, les mêmes images.
Et en même temps, si je peux me permettre, t'es sur plusieurs formats différents, c'est-à-dire que t'as les shorts, t'as les versions un peu plus longues,
ouais.
T'es aussi sur les réseaux type Instagram, etc.
Ouais,
c'est
ouais,
quand même
aussi
une grammaire et une façon d'aborder la vidéo qui est différente.
Ça n'a absolument rien à voir, mais tu sais que j'ai longtemps été très très nul sur les formats courts, parce que quand tu prends l'habitude d'écrire pour du long, t'as le temps d'installer quelque chose. Mmh. Tu vois, t'as le temps d'installer un rythme, d'installer une réalité, d'emmener le viewer là où t'as envie d'aller. Mais sur du court, non. Sur du court, tu as à peu près 5 secondes pour empêcher le gars ou la fille.
Oui, il faut choper le gars direct, quoi.
De se barrer, quoi. Donc, ça veut dire que t'as intérêt à avoir un hook redoutable. Et en même temps, faut pas non plus faire pareil que tout le monde. Donc, faut essayer de trouver des trucs un peu différents.
J'ai l'impression que les trends aussi et peut-être ce que les gens recherchent dans les formats courts évoluent beaucoup plus vite.
Je pense que ouais, effectivement. Après, t'as le côté où je vais faire des trends parce que voilà, c'est à la mode machin. Je vais surfer sur le truc. Moi, j'ai jamais été comme ça. Et je dis ouais, ok, c'est cool, mais je me verrais pas faire ça, tu vois, genre des danses TikTok. Je pense que personne au monde n'a envie de me voir danser. Je danse très très mal, hein, faut le savoir, vraiment.
N'hésitez pas à envoyer nous des messages d'ailleurs si vous voulez voir Fred danser. On vous fera une petite vidéo un peu plus tard.
Pourquoi pas.
Non, on laisse passer des petits messages comme ça.
Ouais, ouais. Non, vraiment, je suis un très mauvais danseur. Non, mais les trends, voilà, tu sais que ça peut fonctionner, que. Voilà, tu pars sur des trucs, ça va cliquer. Mais est-ce que tu peux vraiment construire une communauté comme ça? Je suis pas certain en fait, et enfin moi je me sens pas de le faire.
Et comment tu choisis tes sujets? Est-ce que c'est en fonction de ce que tu veux raconter, de l'algo, de même tes coups de cœur perso?
Alors l'algo, non. Si je vais faire des vidéos pour l'algo, ce serait un peu toujours sur les mêmes types de produits. C'est vraiment une question de coup de cœur, et il faut que j'ai un truc à raconter, tu vois. Alors pendant un temps, au tout début, hein. Tu vois, il y avait des marques qui me proposaient, est-ce que tu veux me parler de tel produit, de tel produit, de tel produit? Et je disais, bah ouais, ouais, pourquoi pas? Et je disais oui à beaucoup de choses, en fait. Et maintenant, je dis beaucoup non. En tout cas, sur le format long. Le format court, je dis plus oui, parce que c'est quand même plus facile de produire du court que du long. Mais sur du long, maintenant, je suis hyper sélectif et je veux parler de trucs qui m'intéressent. Alors, je pars souvent sur des usages et je peux toucher, du coup, à des sujets qui sont très différents. Parler gaming, je peux parler aussi audio, des fois. Alors, pas comme Pépé Garcia, mais à ma façon. Et voilà, après, c'est pas l'algo, en tout cas, ça, c'est sûr. L'algo, c'est...
La pression du calendrier de sortie, des levées d'embargo successifs, parfois, c'est vrai,
on a les mêmes, hein, Julien, c'est un enfer.
Avec cette charge de travail, t'arrives à le gérer, tout ça?
C'est extrêmement compliqué.
Comment t'arbitres?
Mais j'arbitre pas. Mec, je suis là, je fonctionne, je suis sous calmant, tu vois, j'en peux plus. Je prends des cachets. Non, c'est terrible. En fait, avant, il y a très très longtemps, c'était il y a 10 ou 15 ans, c'est au début des blogs et tout, on avait vraiment 2 mois l'été, tu sais, où il se passait rien du tout. C'était 2 mois, ouais, tu rangeais tes papiers, tu faisais ton ménage, tu sortais de chez toi, tu te rasais, tu t'allais chez le coiffeur. Maintenant, du mois de janvier jusqu'à, on va dire, aller le 21 décembre, c'est blindé. Donc, on va pas sortir des dates parce que, bah, il y a des événements qui vont arriver. Bien sûr. Et on peut pas en parler, mais clairement, aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans une annonce majeure. Je parle pas forcément d'événements, mais sans une annonce majeure. Donc, comment je fais? Alors, déjà, je parle de ce qui me plaît, de ce qui m'intéresse. Comment j'arbitre? Bah, j'arbitre, en fait, en dissociant les formats longs des formats courts. Je peux parler de plus de choses sur un format court que sur du long. Donc, des fois, il y a des marques qui me disent, voilà, on aimerait bien, est-ce que tu veux tester tel produit? Et je dis, OK. Par contre, là, actuellement, je suis sous l'eau. Je peux faire que du court dessus.
Et à une époque où, en dehors de l'aspect logiciel, on est un peu sur un plateau en termes d'innovation, t'arrives à trouver des angles et des sujets intéressants à creuser sur un produit?
Je sais pas si tous mes sujets sont intéressants. En fait, j'essaye vraiment de réfléchir à la personne qui va regarder mes vidéos. De quoi va avoir besoin la personne qui va la regarder? Qu'est-ce que moi, j'aimerais voir dans cette vidéo? Et c'est comme ça que j'arrive justement, tu vois, à trouver les angles et à trouver la matière. Et je pense qu'il faut partir de la personne à qui tu t'adresses, ou qui connaît pas trop la tech, ou qui connaît pas trop la photo. Elle vient d'avoir un iPhone ou un Galaxy, ce que tu veux, et elle veut se mettre à la photo. Bon, bah, tu vois, j'ai préparé un guide dessus. Ça a été 6 mois de boulot, quoi. Et la vidéo a floppé.
Non.
Sur le coup, elle a floppé. Top 9, tu vois. Je me disais, bon, c'est bon, vas-y, c'est pas possible, quoi. Tu vois, j'étais en mode...
Mais c'est pas des vidéos qui se consomment sur du temps long aussi?
Bah si, maintenant, ouais. Elle marche bien. Elle marche, mais au bout de... Tu vois, il a fallu un an pour qu'elle commence à faire vraiment beaucoup de vues. Mais t'as ce côté qui est rageant aussi. C'est-à-dire que tu as envie d'être vu. Hein. Quand tu fais du contenu sur Internet, c'est pour être vu, pour être lu, pour... T'as besoin d'interaction, en fait. Hein. C'est vraiment... On a soif de ça. Tu prends des streamers, quand ils ont commencé à streamer, c'est parce qu'ils se faisaient chier, ils étaient tout seuls dans leur piole et ils avaient envie d'avoir du monde autour d'eux. C'est comme ça que ça fonctionne.
C'est clair.
Tu prends un Cyprien, n'importe qui, c'était ça. Et donc, forcément, si t'es pas vu, ouais, ça fait un peu mal au cœur. Surtout quand c'est une vidéo pour laquelle tu as donné beaucoup de ton temps et beaucoup de ton énergie.
Avec les keynotes successives, même très très nombreuses, les catalogues avec un nombre de références pas possible, parfois on a tous du mal un peu à s'y retrouver, est-ce que tu sens malgré tout toujours cette appétence du public ou une petite lassitude?
Par rapport à la tech en général, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'on a des marchés qui sont arrivés à maturité, sur le marché du smartphone notamment, que tu connais bien, que je connais bien aussi parce que j'en parle beaucoup. Aujourd'hui, c'est pas qu'il y a un plafond de verre, mais il y a plus de grosse marge de progression. On a des téléphones qui sont capables de remplacer, en termes de puissance, nos ordinateurs, qui font de très très belles photos, qui font des vidéos incroyables. qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Donc après, tu as des formats qui changent, les pliants, donc ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que ça va être une année charnière. Ah. Après, pour le reste, tu prends le gaming, par exemple, bon, le gaming, quand même, ça bouge un peu, tu vois, là, on a Valve, ils ont annoncé quand même une panoplie de nouvelles machines pour le début d'année, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Et le prix, surtout?
Le prix, bah oui, le prix risque de piquer un peu, parce que de ce que j'ai pu voir, ça risque d'être un peu compliqué, mais la tech, c'est pas comme quand j'étais gamin, tu vois, quand j'étais gosse, en vrai, tu connais Stranger Things, tu vois, les gamins, quand ils sont petits et tout ça, ça c'était ma vie. Je suis né dans les années 80, tu vois, et donc on était là, on était des geeks, donc on était détestés par l'ensemble des écoles, des collèges, des filles aussi malheureusement, mais bon, donc on était très isolés, on jouait à des jeux de rôle, hein, Donjons et Dragons, j'ai connu, tu vois, avec ta feuille de personnage que tu classes dans ce foutu classeur que ta mère perd, voilà, parce qu'elle a décidé de déménager, de faire du rangement pendant que t'es chez tes grands-parents, merci maman, c'était quand même un elfe, il était balèze mon elfe, hein. Mais bon, voilà, et tu vois, et j'ai connu cette époque-là, et à l'époque, effectivement, la tech, c'était quelque chose de magique presque, hein. Même mes parents, tu vois, c'était
ultra niche.
Mais ultra niche. C'est-à-dire que, tu vois, Internet, par exemple, Internet, ça a commencé à bouger quoi, à se démocratiser dans les années 90, à la fin des années 90. En 98, j'étais en terminale, il y avait 3 personnes qui avaient Internet dans ma classe, classe de 30. Donc, effectivement, pour ceux qui ont connu cette explosion, aujourd'hui, ils peuvent penser qu'on s'ennuie un peu. Parce que, on a une espèce de plafond de verre, tout le monde a Internet, tout le monde a un smartphone. Mais il y a quand même des innovations qui se passent.
Et on est passé d'une ère hardware à une ère software.
Effectivement, on est passé à une ère software, beaucoup, de plus en plus, et avec l'IA, ça va être de plus en plus comme ça. L'IA change aujourd'hui déjà beaucoup de choses, va continuer à changer beaucoup de choses, et là, effectivement, on va rentrer dans une guerre applicative, en fait. Tu vois, avant, c'est des marques contre des marques, maintenant, c'est des IA contre des IA. En vrai, c'est chaud, quand même, quand tu vois, genre Skynet et tout. Imagine Skynet qui se bastonne avec Gemini.
C'est pas que j'ai maté Terminator ce week-end.
Non, ça...
Par un pur hasard, je suis tombé dessus, je l'ai regardé. C'est flippant.
Ouais, bah, je me dis, entre Skynet et Gemini, je sais pas qui l'emporte, tu vois.
Ça se passe quand même dans les années 2030.
Entre Skynet et Siri, j'ai déjà une idée, quand même, mais...
Mais pour toi, une bonne innovation en 2026, c'est quoi?
J'ai envie de parler du pliant parce qu'il y a eu des grosses annonces qui ont été faites, il y a des grosses rumeurs qui circulent autour des pliants, autour des formats de pliants. Et même si le marché, si tu veux, il est pas balbutiant. Hein,
Mais tu penses qu'un smartphone pliant peut se démocratiser?
Vu le prix, non. Voilà, parce qu'il y a aussi je pense qu'il y a cette variable à prendre en compte. C'est-à-dire que t'as le côté tech, qu'on adore tous, tu vois, et puis après t'as le côté réaliste où t'as des gens aujourd'hui qui ont déjà du mal à remplir leur frigo, donc ils vont pas s'acheter un Galaxy Z Fold 8 à, je sais pas, 2000-3000 euros, tu vois.
Après, ça, c'est t'as des clients qu'on a pu voir au MWC de marques chinoises.
Oui, qui sont moins chers.
À 500-600 balles, donc.
Ça viendra, on y viendra sans doute. Après, c'est comme tout, il faut une production, il faut de la R&D, il faut que ça se développe. Tu prends le premier Fold, par exemple, je m'en rappelle, il y avait Steven qui travaille aussi au numérique, qui m'avait apporté sur un voyage presse. Regarde, là, j'ai le premier Fold. Et moi, je lui avais dit, mais c'est merdique. C'était moche, tu vois. Et si on l'a regardé avec des yeux ronds,
c'était une brique, hein.
On avait failli se battre quand même, tu vois. Toujours est-il qu'à l'époque, je lui ai dit, il y avait tellement de défauts, en fait. Tu vois, c'était gros, l'écran extérieur n'était pas joli. Mais là où on était d'accord avec Steven, c'est qu'on savait très bien que ce premier modèle allait ouvrir une nouvelle porte et qu'il fallait passer par là pour arriver aujourd'hui à des modèles qui sont extra fins, qui font l'encombrement d'un téléphone quand tu les replies. Et quand tu vois aujourd'hui le marché, il est hyper séduisant. Enfin, j'ai testé le Fold 7, incroyable. Le Magic V5, incroyable. Tu te dis, là, t'arrives vraiment à quelque chose, à un produit. Tu vois, là, t'es séduit. Alors, est-ce que t'en aurais l'utilité? Est-ce que je pourrais passer ma vie sur un pliant? Peut-être, peut-être pas, je sais pas.
On a la chance de quand même manipuler énormément de produits différents avec des form factors différents. Quand on parle de pliant, est-ce que tu préfères un pliant en format livre? Un pliant en format clapet? Est-ce que tu préfères quelque chose qui rentre plus facilement dans ta poche, qui prend moins de place? Et donc, le pliant, pour toi, c'est ça, cette vocation-là? Ou d'agrandir la surface d'affichage? C'est quoi ta
préférence? Je savais qu'on allait parler de ça. Je savais que tu m'amenais sur ce sujet-là. Mais si. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, justement, le format du pliant a toujours été un problème. Alors, tout ce qui est flip, c'est pas trop ma cam. Alors, j'aime bien pour filmer, pour photographier, c'est hyper pratique d'avoir le mode trépied. Mais pour consommer du contenu, moi, je préfère vraiment, tu vois, le gros gabarit. Et jusqu'à présent, le gros gabarit, c'était type Fold, type Magic V5. Et ce sont des super téléphones, vraiment, qui sont très adaptés à la productivité, mais pas trop à la consommation de contenu. Parce que le format...
C'est un format carré, donc tu te retrouves avec des grosses barres noires.
Exactement. Et c'est pour ça que j'espère que cette année, on aura des pliants avec un format un peu plus étiré, tu sais, un peu plus... des tablettes, en fait, que tu replies.
Comme un Trifold, par exemple.
Le Trifold, j'avoue que j'aurais bien aimé le tester, mais j'ai pas eu l'occasion de jouer avec, malheureusement.
On se rapproche déjà du format.
Mais on se rapproche du format. J'avais vu le Huawei avec le double charnière.
Mate XT.
C'est le XT, ouais. j'avais eu en main et tout, et j'avais vraiment trouvé que c'était très, très balèze. Mais après, il est aussi question de nouveaux formats avec une seule charnière. Donc, t'as Apple hein, qui devrait lancer un iPhone Fold en fin d'année. T'as Samsung qui annoncera peut-être des trucs cet été, enfin, qui annoncera certainement des choses cet été. Et il pourrait y avoir, d'après les rumeurs, un nouveau format de pliant, un peu plus wide, un peu plus élargi. J'espère qu'on va arriver justement à une multiplicité des formats parce que on a tous une manière différente d'exploiter notre smartphone. Et pour le pliant, ben, c'est la même chose. Hein. T'en as qui vont privilégier la productivité parce que c'est un outil de travail. Tu sais, à pouvoir afficher plusieurs applications côte à côte. Et t'en as d'autres comme moi qui sont là pour regarder des vidéos sur YouTube ou des animes sur Crunchyroll, quoi.
Et à terme, peut-être que le smartphone tuera d'autres catégories de produits.
Parce la tablette.
À force de se transformer, ça remplacera une tablette qui peut-être remplacera aussi un ordinateur. On parlait de puissance. Maintenant, avec les puces qu'on peut avoir dans les téléphones haut de gamme, on peut se poser la question.
Ah, mais on peut vraiment se poser la question quand tu vois des jeux AAA qui fonctionnent sur des iPhones, sur des smartphones avec Snapdragon 8,
des smartphones que
Elite,
tu peux brancher directement sur un moniteur.
Que tu peux brancher sur un moniteur.
Tu peux faire office de PC.
Ouais, en fait.
Quoi.
Mais ça existait depuis longtemps, en fait. Hein.
Bien sûr.
Il y a 10 ans,
on en parlait
déjà. Mais
avec le niveau de puissance qu'on peut avoir maintenant, là, ça commence, on peut discuter.
Ça commence. Après, est-ce qu'on en est à pouvoir rivaliser avec une grosse bécane, tu vois, avec une 5080? Je suis pas sûr parce qu'il y a quand même le côté encombrement qui fait que tu as des contraintes techniques. Mais pour un usage type bureautique, consultation de site web, en vrai, moi je rêverais, tu vois, de pouvoir prendre, je sais pas, un iPhone, tu le branches, bah comme tu Samsung avec le Dex. Je trouve ça incroyable. T'as ton téléphone, tu le branches à un moniteur, t'as un PC. Voilà.
Oui, t'es en déplacement, c'est vrai que pour le travail, c'est quand même plus pratique. Je suis d'accord. On parlait de rivalité, justement. Moi, je voulais savoir la petite rivalité entre les médias d'aujourd'hui et les médias d'hier. Pourquoi, d'après toi, autant de gens préfèrent YouTube et les podcasts à la télé et à la radio ? À l'heure où on enregistre cette interview, Médiamétrie vient de sortir les audiences radio et ça dégringole de partout, que ce soit les généralistes ou les musicales. Et on voit les podcasts et une vraie appétence pour ce format-là, qui est un format, on va dire,
c'est pareil.
La télévision, c'est pareil, le linéaire commence un petit peu à pâtir. Mmh. Et par contre, derrière, bah, tu as les formats comme YouTube ou même le replay qui cartonnent. Comment t'expliques ce changement de consommation ?
Ben pour moi, c'est simple. Hein. C'est que les gens n'ont plus envie de rester captifs devant leur téléviseur. Tu vois, ils ont envie... déjà, on a tous des vies différentes. Hein. Faut dire ce qui est. Quand t'as des enfants, bah, tu sais que quoi qu'il arrive, il faut d'abord les nourrir. Hein, quand même, c'est mieux. Faut essayer de les laver. Ou en tout cas, de les pousser à se laver. Ce qui n'est pas évident quand ils sont adolescents. Voilà, je t'aime, mon amour. Et puis après, t'as aussi le truc de dire, bah voilà, une fois que tu t'es occupé de ton gamin, là, tu peux te poser devant la télé. Mais en fait, tu te poses devant la télé quand, à quelle heure ? Il faut que tu sois là à 21h pour le début du film. Tu vas avoir je ne sais pas combien de coupures publicitaires dégueulasses qui vont durer un quart d'heure. Maintenant, il y a forcément que les gens en ont marre. Évidemment, ils ont envie de pouvoir être acteurs de leur consommation, de choisir. Et d'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que tu prends les plateformes de SVOD, Netflix et compagnie, ils sont arrivés avec ce modèle où on pouvait aller piocher, on pouvait s'enfiler une série, enfin une saison complète en une soirée, et maintenant, ils te sortent un épisode par semaine. Franchement, arrêtez de faire ça, c'est pénible.
Et j'ajouterais même que pour ceux qui n'ont pas envie non plus que ça devienne très lourd sur le budget, ils ont tous... pour la plupart, choisit l'option avec publicité et se retrouve également avec de la publicité. Donc,
ouais.
C'est un peu une télébis.
Bah, tu vois, là, typiquement, c'était quand ? C'était hier, je voulais regarder...
Je regarde une vidéo de toi, hein, entrecoupée 4 ou 5 fois par YouTube.
C'est horrible.
Et en plus, t'as même pas eu le temps de terminer une phrase.
Ah, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et tu sais, ce qui est très drôle, c'est que si je désactive les pubs intégrées dans la vidéo, je vais quand même en avoir, sauf que je toucherai pas l'argent. J'avais essayé hein, plusieurs fois.
Bah, c'est important de le dire, ça aussi.
Et parce que c'est chiant, tu vois, il y a un moment donné. Alors, tu dis, oui, vous pouvez placer les coupures, machin, etc. Et en fait, j'ai pas l'impression que ça fonctionne vraiment très, très bien. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a ce que tu vas demander et ce que YouTube va te donner. Mmh. Mais si tu désactives les pubs, non, si. Ils sont en train de commettre une grosse erreur, c'est qu'il y a beaucoup trop de publicité. Alors, ils veulent faire passer les gens sur leur formule premium.
Oui, mais leur modèle économique est pas viable. C'est beaucoup trop cher.
Ça coûte plus cher que, par exemple, l'abonnement HBO Max que j'ai pris hier pour regarder la seconde saison de...
The Pitt,
j'ai pas commencé. J'ai regardé, tu sais, que John Cena, là, il a fait une série d'ici.
Ah,
The
Peacemaker.
Ah, j'adore.
C'est énorme.
J'adore, c'est énorme. Mais voilà, là, j'ai pris un abonnement et ça m'a coûté avec les pubs 6 balles. Je me verrai pas.
Et il n'y en a pas tant que ça.
Mais YouTube Premium, j'ai pas YouTube Premium.
C'est
drôle. Je suis le seul YouTuber qui l'a pas. Bah non, mais c'est
puis en même temps, c'est ce qui s'est bouffé. Donc ce serait quand même dommage de pas laisser.
Non, c'est
films.
Pas ça. C'est que je me dis, bah il faut que j'ai la même expérience que la plupart des gens.
Ouais.
Tu vois, c'est-à-dire que si j'ai pas la même expérience qu'eux, s'ils me disent dans les commentaires, ouais, il y a trop de pubs, je vais dire, bah non, forcément, t'as un premium. Donc là, tu vois, du coup, je peux leur dire, bah ouais, vous avez raison, et leur expliquer bah, que ce que moi j'ai pu constater, à savoir qu'on s'est fait bypasser par le programme YouTube Ads.
Donc pour toi, ce qui fait que les médias ont raté quelque chose, les médias traditionnels, je parle, c'est le fait de ne pas avoir collé forcément avec le quotidien de ceux qui
consomment. Pour moi, c'est ça. C'est les habitudes évoluent et les gens, ils ont. Enfin, t'as pas envie d'avoir la contrainte de te poser devant la télé à telle heure. T'as envie de profiter, de dire, bah tiens, là, c'est bon, on a fait notre truc, on fait un petit break, je sais pas, on fait un jeu avec les gamins, on lit une histoire, et puis bah après, on se met devant Netflix. Si tu fais ça sur, en regardant la télé, tu vas arriver, tu seras en plein milieu de Joséphine Regardien, et tu vas rien comprendre à l'histoire, ce serait quand même dramatique, tu vois.
Tu vas alors claquer des doigts et tu sais même pas pourquoi.
Pourquoi les claques des doigts? Et en fait, je pense qu'il est là le problème, c'est que les médias traditionnels, télévision... Radio, c'est un peu différent. Je pense qu'il y a quand même encore un public pour la radio, non?
Non, je t'assure que là j'ai mes anciens collègues de radio et la radio pour laquelle je travaillais avant, là, qui viennent de recevoir leur bulletin scolaire, là, et pour le coup, il n'est pas bon. Alors après, je vais pas me plaindre. Hein. Nous,
non, mais c'est le même principe, en fait.
Nos médias fonctionnent, c'est des nouveaux médias. On essaye de les faire vivre. Toi, ta plateforme cartonne.
Ton site aussi, il me semble.
les numériques Psartech, comme on dit, ça se passe très, très bien. Le podcast aussi, c'est l'occasion aussi de vous remercier de nous écouter, d'être toujours aussi nombreux. Plus de 110 000 écoutes, quand même.
Aujourd'hui.
Rien qu'aujourd'hui, là, maintenant.
Dans l'heure, là.
Ouais. C'est
énorme. 110 000, c'est énorme.
Sans après, compter les plateformes seulement sur le site.
Ah ouais?
Ouais.
Ah ouais, j'avoue, ok, d'accord. Mais là encore, tu vois, le podcast, moi je prends ma chaîne, une heure par jour, bah hop, tu mets un podcast en fait, tu mets un épisode de podcast. Tu peux écouter la radio, mais tu vas tomber sur... Il est toujours là, Michel Drucker ? Je regarde plus la télévision. Tu sais, je vais te dire un truc, mec, qui est incroyable, et c'est véridique.
Cette phrase, il est toujours là, Michel Drucker. Non, mais le pire, c'est que tu me l'as dit avec un aplomb, il est toujours là.
J'espère vraiment de ne pas avoir commis d'impair, si c'est le cas, Michel...
Hervé Villard n'est pas mort.
Okay. Mais tu sais, le truc, c'est que quand j'ai emménagé dans ma maison, il y a 7 ans de ça, donc voilà, j'ai pris mon abonnement Orange, machin, j'ai reçu la box avec la box de la télévision, et je me suis dit, tiens, on va pas la brancher, puis on va voir si on arrive à vivre sans. Mmh. Ouais, toujours dans le carton.
C'est pareil à la maison.
Et en vrai, on vit mieux comme ça. La radio, ouais, c'est dommage parce qu'il y a quand même des radios, tu vois, qui se battent avec des émissions qui sont hyper intéressantes.
Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un contenu. S'il n'y a pas de plus-value, c'est comme sur YouTube, en fait.
Mais tu sais que quand j'étais gamin, j'avais d'avoir un flashback quand tu me parlais, je te jure, Julien. J'étais là, je le regardais et je me renvoyais dans ma chambre. J'avais 12-13 ans et je mettais la radio sur mon poste. J'avais une cassette dedans et j'attendais que la chanson que je kiffais, qui avait été annoncée, passe. Pour lancer le rec.
Jingle, et là c'était Rec Play en même temps.
Est-ce que tu te rends compte du délire que c'est? Et après il y a eu Napster. Voilà.
Non, qui t'a donné de vraies infos? On va faire le bilan déjà de 2025 et parler un petit peu de ce qu'on attend et de ce qui vient de tomber là ces derniers jours. Si tu devais résumer 2025 côté Android, est-ce que c'est une guerre plus de photos, d'IA, de prix ou d'écosystème?
D'IA. Mais l'IA, c'est le cœur de la. Enfin, c'était le cœur de la guerre en 2025. Hein. C'est que tout le monde ne parlait que d'IA. Ouais, mais après il y a aussi la Chine, tu sais qu'ils ont des plans en Chine. Hein.
Terminator.
Ouais, Terminator, mais on n'est pas très très loin. Hein. Mais après un Terminator qui est géré par Siri, je pense qu'on a quand même de fortes chances de survie, hein, sincèrement.
Justement, tu parles de Siri. Samsung, Xiaomi, Google ou Apple, qui a vraiment sorti son épingle du jeu en termes d'IA et de stratégie l'année dernière?
Ouais, en termes d'IA, déjà, t'as toujours un truc de ça, c'est tous les ans pareil. Hein. C'est toujours Samsung qui dégaine le premier, avec des fonctions qui sont propres au Galaxy S, et qui sont développées en partenariat avec Google, bien sûr, mais avec le sceau Samsung, et j'imagine un contrat exclusif derrière. Donc c'est souvent Samsung quand même qui tire le premier. Après, t'as Nothing, ils ont fait des trucs sympas l'année dernière, sur, tu sais, l'espace...
L'Essential Space.
Ouais. Qui a été repris d'ailleurs un peu partout et par tous les constructeurs ensuite.
C'est vrai.
Honor, ils font beaucoup d'IA sur la photo et ça fonctionne vraiment très très bien. Le traitement photo est vraiment balèze. Je dirais pas qu'il y a une marque qui tire son épingle du jeu. Je dirais qu'elle s'approprie toute l'IA de façon différente, mais assez pertinente. Alors après, il y a des ressemblances sous les outils de rédaction et autres, mais je pense quand même que chaque constructeur a sa philosophie. Et après, t'as Apple.
Justement, Apple, à part l'ultra finesse et son iPhone Air, on en est où de l'innovation chez Apple?
Alors, c'est un sujet très intéressant.
Ouais.
J'ai pas faire du Apple bashing.
Ce serait trop facile.
Parce que ce serait trop facile. Alors, ça dépend toujours des gammes de produits. Hein. Si tu prends, par exemple, des laptops, ordinateurs portables, aujourd'hui, sincèrement, je pense qu'il vaut mieux prendre un MacBook Air, un MacBook Pro. T'as un rapport puissance-autonomie prix qui est très très bon. Tu peux faire n'importe quoi avec, c'est increvable. Si on parle de smartphone, c'est quand même un sujet qui est important.
C'est un peu la porte d'entrée à l'écosystème Apple.
C'est un peu la porte d'entrée à l'écosystème Apple. Et aujourd'hui, les iPhones restent, je vais le dire, hein, les meilleures caméras sur le marché des smartphones. Ce que tu fais avec un iPhone aujourd'hui.
En vidéo, je suis moins d'accord.
Quand je dis caméra, c'est pas appareil photo. Je fais le distinguo entre les deux. Je parle pas d'appareil photo, je parle vraiment de caméra. Le ProRes RAW, incroyable. Moi, j'ai des vidéos, je mélange des plans pris à l'iPhone avec des plans shootés à la 7.4, avec feu monoptique 28-70mm f2.8 qui m'avait coûté 2 200 € et que j'ai fait tomber l'année dernière. Bref. Et mec, tu vois pas la différence. Personne n'a jamais vu la différence. Parce que ProRes. Mais peut-être qu'aujourd'hui, les gens attendent un peu plus que ça, un peu plus qu'un catalogue rationalisé. On a envie de rêver, en fait. On a envie, comme à l'époque, quand Steve Jobs a retiré le premier MacBook Air de cette enveloppe Kraft, où j'étais devant mon ordinateur dans mon studio de 33 mètres carrés, en caleçon, pas en slip, en caleçon, j'avais une bière à la main, la bière est tombée par terre, ça m'a niqué la moquette, j'ai perdu ma caution, mais c'était un moment d'anthologie.
Un produit Apple, c'est toujours un très bon produit.
Bien sûr, mais...
Le problème, c'est que maintenant, est-ce qu'il peut toujours faire face à sa concurrence? Je ne suis pas sûr.
Alors, historiquement, il faut quand même déjà rappeler que Apple, quand ils ont commencé à faire de l'informatique, à faire de la tech, ils ont été les premiers à allier design et ingénierie. C'est-à-dire qu'avant, les mecs, les ingénieurs, voulaient des produits qui soient efficaces. Donc, on avait des laptops horribles qui pesaient le poids d'un âne mort. C'était horrible. C'était vraiment horrible. On avait des téléphones moches, en plastique, qui étaient incroyables, certes, mais bon, voilà. Et Apple est arrivé en disant, nous, on veut faire de beaux produits aussi. Et ils ont commencé à lancer de beaux produits. Après, Apple reste quand même Apple. Il y a cette espèce d'aura autour de l'entreprise qui a aussi cet avantage d'avoir le logiciel et le matériel en même temps.
Alors, on parle logiciel, ça tombe bien, parce que là, ils viennent de l'annoncer hier.
C'est pour ça.
Le gros aveu de faiblesse, aveu d'échec même, j'ai envie de dire, d'Apple, c'est l'impossibilité pour eux de développer vraiment leur IA comme ils le souhaitent, en tout cas.
Gemini.
Voilà,
Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce que tu vois, ce matin, j'ai publié justement un tweet là-dessus et tout, et j'ai eu des commentaires pas désagréables, tu vois, mais tu sens qu'on cherche un peu à me recadrer. Parce que moi, j'ai dit, pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Et quand même, beaucoup de gens qui ont voulu me recadrer en disant, mais non, c'est pas ça, c'est un move qui est logique, qui est intelligent, etc., etc., etc. Et puis, Gemini, c'est pas si mal.
C'est un peu difficile de défendre ce point de vue. Parce que depuis toujours, Apple n'arrête pas de dire, oui, mais nous, c'est la sécurité avant tout, on veut faire un truc qui soit à nous, propriétaire, dont on peut gérer exactement. Enfin, finalement, vous allez faire toc-toc-toc chez Mountain View juste à côté.
Ils vont prendre un modèle spécifique.
Bien sûr.
Qui tournera de façon spécifique.
Ça fait combien de temps qu'ils nous vendent leur Siri 2.0 qui devait arriver?
C'est ça qui est terrible. C'est ça
gars,
qui est terrible.
Pour au final aller voir Google qui a sorti Gemini il y a 3 ans et tout cartonne.
C'est ça. Et l'annonce du nouveau Siri, elle commence quand même à remonter. Et c'est vrai qu'à l'époque, on nous avait annoncé, on nous avait vendu du rêve, littéralement.
Le futur.
Et j'y ai cru, sincèrement. Et puis après, finalement, il n'y a pas de Siri parce qu'il n'est pas encore prêt. Apple Intelligence. Voilà.
Ils se sont bien cachés avec le DMA au départ en disant oui, non, alors toutes les fonctions ne peuvent pas arriver parce qu'il y a des réglementations.
Non.
C'est pas prêt.
Non,
c'est juste pas prêt.
Et là, le problème, c'est que c'est même pas que c'était pas prêt à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, ça l'est pas plus, à un point tel que, on va passer par une autre IA d'une autre boîte.
Ça a commencé avec ChatGPT. De proposer à ChatGPT de
prendre
le relais. Bien sûr.
Et c'était
mais dès le
temporaire.
Début, c'était déjà un peu de faiblesse.
Et en gros, c'était temporaire. Mais mode, c'est pas encore tout à fait prêt. Vous avez ChatGPT en attendant. Là, maintenant, ça devrait être prêt. Et on va passer sur le Gemini. Et là, on se dit, mais attends, c'est quoi l'IA chez Apple? C'est ChatGPT, qui n'appartient pas à Apple. C'est Gemini, qui n'appartient pas à Apple. Il y a un vrai problème, mais ça, justement, tu vois, peut-être que le souci de leadership dont je parlais, il est peut-être là. Alors, je sais pas si les rumeurs disent vrai ou pas, t'en as qui expliquait ça en disant qu'en gros, certaines personnes chez Apple, au placé, ne croyaient pas en l'IA. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu déjà l'époque Vision Pro, Vision OS, où ils ont dû mobiliser beaucoup de ressources pour développer leur premier casque avec l'OS qui allait derrière. Et je pense que quand tu mets autant de ressources sur un produit, sur une nouvelle gamme de produits, c'est compliqué d'en débloquer pour d'autres divisions. Et peut-être que, du même coup, la division IA a pâti du Vision Pro, indirectement.
Parce qu'avec le succès qu'on connaît, parce que Vision Pro...
Avec le succès qu'on connaît. Maintenant, le succès... le succès... C'est à croire qu'ils ne voulaient pas que ça marche, en fait. Mmh. C'est à croire qu'ils ne voulaient pas que ça marche. Et c'est vraiment dommage, en fait. Et c'est là que tu te dis qu'il y a peut-être besoin d'un renouveau à la tête d'Apple.
A contrario, si Apple a signé avec Google pour son IA, les rumeurs parlent d'un départ ou d'une rupture entre Samsung et Google en faveur de Perplexity pour les prochains smartphones. Donc, il y a quand même pas mal de changements qui seront là.
Voilà, ce sera un sacré changement parce que t'imagines, Samsung qui tournerait le dos à Gemini, à Google. Mmh.
avec une fonction qui s'appellerait Circle to Ask au lieu de Circle to Search.
J'avoue. Non, mais je pense pas que Samsung va se désengager de Google. Je pense qu'ils vont continuer à négocier des fonctions exclusives parce qu'ils ont besoin d'avoir.
Oui, pour leur assistant personnel, je pense qu'ils veulent s'en.
Et pour leur assistant, il paraîtrait qu'ils voudraient remettre Bixby à l'ordre du jour, tu vois.
C'est ça.
Alors, s'ils le font.
Ils ont déjà vendu ça sur le S25. Dès le début, c'était non, mais Bixby est toujours là, Bixby est toujours là.
Ouais, mais moi, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu non plus.
Non plus.
Peut-être qu'on aura une grosse surprise. Par contre, ce qui serait dingue, c'est qu'ils arrivent là avec les S26, avec un Bixby qui propose les fonctions qui étaient censées proposer Siri 2.0, ouais. Et qu'il les fait sans le concours de personne. Là, je dirais, ok, les gars, là, vous êtes chaud.
Ouais.
Et ce serait pas non plus une stratégie complètement idiote parce que ça leur permettrait vraiment d'avoir la mainmise sur tout.
Et ce serait pas la seule marque à s'être tournée vers Perplexity. Il y a eu Motorola aussi pendant l'année 2025. Moto AI avec Perplexity.
Perplexity, ils ont signé avec beaucoup de personnes. Hein, ouais. Beaucoup de.
Je pense que c'est un petit peu leur façon aussi de.
Ouais, c'est marrant parce que j'ai eu un débat et j'ai une question à te poser du coup, tu vois.
Vas-y.
Pour toi, Perplexity, ça remplace Google ou pas?
Pour l'instant, non.
Est-ce que ce sont deux produits qui sont sur le même marché, qui sont concurrentiels, hein, qui sont en concurrence directe?
En fait, à mon sens, Perplexity, c'est un modèle hybride. Ça peut venir en complément, ouais.
Non, mais c'est intéressant parce que j'ai discuté avec un abonné sur Instagram.
Mais je comprends pas l'intérêt de leur navigateur. Puisque pour moi, Perplexity est déjà une sorte de navigateur.
Moi, je l'ai installé, je l'ai utilisé pendant 2 mois et je suis passé à autre chose, quoi. Mmh. Perplexity, pour moi, c'est vraiment un outil qui est hyper intéressant et hyper pertinent, qui préfigure de ce que sera la recherche sur Internet de demain. Et les AI Overviews, quand Google va les lancer en France, s'ils le font, c'est pas dit qu'ils le fassent d'ailleurs. Des fois, je me dis peut-être qu'ils le feront pas. Mais ça apportera là encore un nouveau tournant à la recherche en ligne. C'est intéressant, mais effectivement, la personne qui va contrôler Perplexity, ou en tout cas se rapprocher de Perplexity pour négocier des contrats exclusifs, je pense qu'elle peut prendre une avance considérable sur la concurrence.
Parce que sur ce terrain-là en particulier, Perplexity, c'est celui qui a la plus grande longueur d'avance.
Perplexity, l'avantage, c'est qu'il s'appuie sur plusieurs IA déjà. Google, la recherche traditionnelle, elle a longtemps été assez ouverte, et puis au fur et à mesure, ils ont resserré leur algo pour favoriser des sites qui avaient des communautés, des sites qui étaient donc déjà très visible. Et déjà là, à cette époque-là, les sites un peu indépendants, ils ont commencé à perdre du trafic.
C'est pire en pire parce que maintenant, c'est d'abord les sites marchands.
Et maintenant, tu as les sites marchands, donc tu as je sais pas combien de résultats de sites marchands. Enfin, j'ai fait une recherche la dernière fois sur un truc, je devais avoir, je sais pas, 6 ou 7 résultats de sites marchands. Sans compter les encarts qui apparaissaient au-dessus, les box. Compliqué d'avoir de la visibilité sur un moteur comme ça, tu vois. Donc, en fin de compte, tu prends des IA comme Perplexity. Est-ce que les sites seront moins visibles? Peut-être, peut-être pas. Après, le problème, c'est plus l'appartenance de ces outils. Mmh. Mais bon, tu vois, Google, quand ils ont renoncé à leur fameux leitmotiv Don't Be Evil, ça voulait déjà dire pas mal de choses. C'est-à-dire que Google, ils sont arrivés sur le marché, on était là, ils étaient un peu les disrupteurs à l'époque, hein, et on avait Lycos, on avait voilà. On avait Yahoo, mec, c'était horrible. Et ils sont arrivés avec un moteur hyper dépouillé, des résultats beaucoup plus pertinents, pas de lien payant. Et puis, il a quand même fallu payer les serveurs, il a fallu payer les data centers, donc ils ont commencé à mettre un peu de pub. Et puis ensuite, il y a des petits malins qui ont compris comment marchait l'algorithme, qui l'ont détourné, qui ont poussé leur site. Donc Google a resserré de plus en plus. Et c'est comme ça que tu arrives après sur un moteur comme ce qui est là aujourd'hui. Tu prends Google Actualité, c'était pareil, hein, ça reposait sur un... Enfin, c'était plein de bons sentiments au début, tu vois, chacun avait sa chance. Mm-hmm. Aujourd'hui, sincèrement, sur Google Actualité, je ne sais pas si tu y as été récemment...
un peu tous les jours. Hein.
C'est un peu compliqué. Tu vois,
sur Google Actu, on va sur Discover et en règle générale, c'est toujours les mêmes.
Discover, c'est encore autre chose. Ouais. Discover, c'est la télérité de Google. Hein. Je sais que c'est très, ça apporte beaucoup de trafic au site, même énormément de trafic au site.
Mais c'est ce qui pousse chaque site à créer du contenu un peu putaclic.
C'est ça.
Et c'est malheureusement, ça crée un cercle vicieux.
Non, mais c'est ça.
Dernière news pour terminer de ce qui nous attend sur l'année 2026, c'est la flambée des prix.
Ouais, écoute, je sais pas, je me posais la question là tout à l'heure, je me disais, tiens, j'ai 32 gigas de RAM dans ma tour, et je pensais les vendre pour rembourser le crédit de ma maison, tu vois, je me dis, pourquoi pas, pourquoi ne pas le faire, c'est compliqué, c'est très compliqué, après, si tu veux, ça s'est fait rapidement,
ouais.
Moi j'ai acheté ma RAM C'était quand c'était juste avant l'augmentation des prix. J'ai dû l'acheter, les 32 gigas là, à 170 euros. Et là, ça en vaut plus de 600, quoi. Fatalement, il va y avoir des répercussions parce que la RAM, tu l'utilises partout. Les SSD aussi, les prix se sont envolés. On a besoin de RAM, on a besoin de stockage. Donc, quelle est la solution pour les constructeurs qui vont payer de plus en plus cher leur RAM et leur stockage? Ça va être soit d'augmenter les prix,
soit de rogner sur le reste.
Mais de rogner sur quoi? La quantité de RAM, le stockage. Je vois pas comment on peut descendre plus bas que 256 gigas aujourd'hui. Donc, la RAM, bah, c'est bien beau tout ça, mais il faut faire tourner quand même des gros logiciels, des gros jeux. C'est pas avec 8 gigas que tu vas pouvoir faire tout ça. Donc, les prix risquent d'augmenter. Ou on aura une segmentation vraiment des gammes, en fait. Et tu vas avoir des gammes vraiment low cost, tu sais, avec 8 gigas de RAM sur un Windows 11. On est content. Avec 128 gigas de stockage. Tu sais, comme à l'époque des, comment ça s'appelle, les netbooks. Tu sais, les premiers netbooks, là, les IPC, mec, T'appuyais sur le bouton pour allumer le truc. T'allais te faire un café. T'allais faire tes courses. Tu revenais et, c'était un cauchemar. Mais on va revenir là-dessus. Ou alors, bah, les prix vont augmenter. Mais le souci, c'est que les gens n'ont pas plus d'argent qu'avant. Ouais. J'ai même l'impression que c'est plutôt l'inverse. Ouais. Hein, si tu regardes les signes, enfin, je suis pas économiste, hein, attention. Hein, mais bon, tu sens quand même que ça devient compliqué. Donc, ça veut dire que la tech va devenir fatalement moins accessible. Tu vois, il y a très longtemps, il y a 20 ans de ça, on parlait de ce qu'on appelait la fracture numérique. Donc, la fracture numérique, c'était un grand sujet qui était apporté en France par les pouvoirs politiques et qui te disait, bon, il y a des gens qui comprennent, enfin, qui savent pas trop utiliser l'outil informatique, qui savent pas aller sur Internet. Il y a une fracture numérique qui s'est créée entre les générations. Il faut tout faire pour la colmater. OK. Donc, tout le monde a fait ça. Les bibliothèques, les médiathèques ont fait ça. Elles ont fait de la formation. T'as des associations qui ont fait ça aussi. Et, cette fracture numérique, c'est un peu colmatée. Mais aujourd'hui, elle va revenir. Parce qu'il y aura des gens qui auront accès aux produits tech et d'autres qui n'auront pas accès. Tu prends, les enfants, par exemple. Tu vois, moi, j'ai ma fille, elle a 12 ans. Et forcément, au niveau du matos, je la fournis, hein. C'est pas un problème. Tu vois, elle a une imprimante à la maison. Enfin, j'ai une imprimante à la maison. Pour le PC, elle peut utiliser mon PC. Mais des gamins qui sont issus de familles pas très aisées, qui ont pas d'imprimante, qui ont pas de PC et qui doivent rendre après un PowerPoint à leur prof, ils vont faire comment?
Parce que tous les moteurs sont dans les cybercafés, donc maintenant il y a plus de place.
Bah oui. Voilà. Non mais ça va être compliqué, je veux dire, ouais. Tu vois, et je pense que ça va pas s'améliorer tout de suite. Et que quand tu vois des marques qui quittent le marché précipitamment en disant "Oh là, nous on arrête de faire de la RAM pour le grand public parce que en fait ça se vend pas assez cher et on va partir sur la RAM pour les serveurs qui nourrissent les IA" et quand tu vois que l'IA continue à développer et qu'elle continue à péter et que forcément il y aura toujours des besoins là-dedans, ouais, on peut se poser la question. Mais c'est problématique. C'est problématique pour plein de gens, pour nos enfants. Et j'espère que ça va se résorber rapidement et que le marché va s'assainir parce que là, ça devient... C'est grotesque.
Eh ben, on suivra ça sur le site des numériques et avec toi sur YouTube. Tu nous rappelles où on te retrouve?
Chez moi. Bon, non, mais Fred, c'est, après, les gens, vous tapez Fred, et soit vous tombez sur moi, soit vous tombez sur un anglais qui pousse des cris constamment, mais c'est pas moi, je suis pas blond, voilà. Mais après, vous me retrouvez où vous voulez.
Merci en tout cas, Fred, tu reviens.
Merci
quand
à
tu
toi.
Veux.
Bah écoute, je suis la semaine prochaine, c'est ça, non?
Vas-y,
non
bah écoute, pourquoi pas. Le rendez-vous est pris, tu reviens quand tu veux, ça marche.
C'est très cool, merci beaucoup.
Merci, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre mise à jour. Ciao.
Retrouvez l'émission ainsi que tous les podcasts des numériques sur notre site lesnumériques.com et vos plateformes de streaming préférées.